Ursula ignorait encore la coutume qui veut qu'on envoie des pucelles dans la chambre des guerriers, tout comme on lâche des poules au coq rassé, mais elle eut tout loisir de l'apprendre dans le courant de cette année-là. 9 autres fils du colonel Aurelino Buendia furent amenés à la maison afin d'y être baptisés. L'aîné, brun de peau, les yeux verts, étrange, n'avait rien de commun avec la souche paternelle et avait passé les 10 ans. On amena des enfants de tous âges, de toutes les couleurs, mais tous mâles et nantis d'un air de solitude qui interdisait qu'on mît en doute leur consanguinité. 2 seulement se détachaient du lot. L'un trop grand pour son âge, qui mit en miettes les pots de fleurs et plusieurs pièces de vaisselle, parce que ses mains paraissaient avoir la faculté de briser tout ce qu'elles touchaient. L'autre était un blond, avec les mêmes yeux bleus que sa mère, et auquel on avait laissé les cheveux longs et bouclés comme à une fille. Il pénétra dans la maison avec la plus grande familiarité, comme s'il y avait été élevé, se dirigea directement vers un grand coffre situé dans la chambre d'Ursula et exigea « Je veux la danseuse qui se remonte !» Ursula prit peur. Elle ouvrit le coffre, fouilla parmi les très vieux et poussiéreux objets du temps de Melquiades et retrouva enveloppée dans une paire de bas la danseuse à ressort que Pietro Crespi avait un jour apportée à la maison et dont personne ne s'était plus jamais souvenu. En moins de 12 ans, ils baptisèrent du prénom d'Aureliano et du nom de leur mère respective tous les fils que le colonel avait semés de long en large sur tous ses champs de bataille, soit 17. Au début, Ursula leur bourrait les poches d'argent et Amaranta tentait de les retenir. Mais elles finirent par se borner à leur remettre un cadeau et à leur servir de marraine. « Nous faisons notre devoir en les baptisant », disait Ursula, notant dans un cahier le nom et l'adresse de chaque mère et le lieu et la date de naissance de chaque enfant. Aureliano doit certainement tenir ses comptes à jour, et ce sera à lui de prendre ses dispositions quand il reviendra. Au cours d'un déjeuner, épiloguant avec le général Moncada sur cette déconcertante prolifération, elle fit part de son désir de voir le colonel Aureliano Buendia revenir un jour et rassembler à la maison tous ses fils. « Ne vous en faites pas, comadre, » dit le général Moncada d'un air énigmatique. « Il reviendra plus tôt que vous ne l'imaginez. » Ce que le général Moncada savait, et n'avait pas voulu révéler au cours de ce déjeuner, c'était que le colonel Aureliano Buendia était déjà en chemin pour se mettre à la tête de la plus longue, de la plus radicale et de la plus sanglante rébellion qu'il eût jusqu'alors fomentée. La situation redevint aussi tendue qu'au cours des mois qui avaient précédé la première guerre. Les combats de coqs qu'animait le maire en personne furent suspendus. Le capitaine Aquiles Ricardo, commandant la garnison, assuma en fait le pouvoir municipal. Les libéraux le signalèrent comme provocateur. « Il va se passer quelque chose de terrible, » disait Ursula à Aureliano José. « Ne mets pas les pieds dehors après 6 heures du soir. » C'était là vaine prière. Aureliano José, semblable à Arcadio en d'autres temps, avait cessé de lui appartenir. C'était comme si le retour au foyer, la faculté de vivre sans avoir à se tracasser pour les nécessités quotidiennes, avait réveillé en lui les mêmes aspirations à la concupiscence et à la nonchalance que chez son oncle José Arcadio. Sa passion pour Amaranta s'éteignit sans laisser de traces. Il allait un peu à volo, jouant au billard, soignant sa solitude auprès de femmes occasionnelles, fouillant les interstices où Ursula finissait par oublier l'argent qu'elle avait dissimulé. « Ils sont tous les mêmes, » se lamentait Ursula. « Au début, on n'a aucun mal à les élever, ils sont obéissants et sérieux, paraissent incapables de tuer une mouche. » Et à peine la barbe leur pousse-t-elle qu'ils se jettent dans la perdition. » À la différence d'Arcadio, qui ne connut jamais sa véritable filiation, il sut qu'il était fils de Pilar Ternera, laquelle avait suspendu un hamac dans sa maison pour qu'il y vint faire la sieste. Ils étaient davantage que mère et fils, complices, dans une même solitude. Pilar Ternera avait perdu toute trace d'espoir. Son rire avait acquis des sonorités d'orgue. Ses seins avaient succombé à la lassitude des éventuelles caresses. Son ventre et ses cuisses avaient été victimes de son irrévocable destin de femme partagée, mais son cœur vieillissait sans amertume. Obèse, médisante, pleine de vanité de matrone en disgrâce, elle renonça à l'illusion stérile des cartes et trouva un havre de consolation dans les amours des autres. Sous le même toit où Aureliano faisait la sieste, les jeunes filles des environs recevaient leurs amants du moment. « Tu me prêtes la chambre, Pilar ?» lui disait-elle simplement, lorsqu'elles étaient déjà à l'intérieur. « Bien sûr, » répondait Pilar. Et si quelqu'un se trouvait là, elle lui expliquait « Ça me rend heureuse de savoir les gens heureux dans mon lit. » Jamais elle ne faisait payer ce genre de service. Jamais elle ne refusait cette faveur. et pareillement ne la refusa jamais aux innombrables hommes qui la cherchèrent jusqu'au crépuscule de sa maturité, sans lui donner argent ni amour, mais seulement parfois du plaisir. Ses 5 filles, héritières d'une si ardente semence, se perdirent dès l'adolescence par les chemins scabreux de la vie. Des 2 garçons qu'elle parvint à élever, l'un mourut au combat dans les troupes du colonel Aureliano Buendía, l'autre fut blessé et capturé à l'âge de 14 ans, alors qu'il essayait de voler un grand cageot de poule dans un village du Marigot. D'une certaine façon, Aureliano José fut cet homme grand et brun que, pendant un demi-siècle, lui avait annoncé le roi de cœur, et qui, comme tous les êtres envoyés par les cartes, arriva jusqu'à son cœur déjà marqué du signe de la mort. Elle le lut dans les tarots. « Ne sors pas cette nuit, lui dit-elle, reste à dormir ici. Carmelita Montiel n'en peut plus de me supplier que je la laisse dans ta chambre. » Aureliano José ne perçut pas la prière que cachait au fond cette proposition. « Dis-lui qu'elle m'attend à minuit, fit-il. » Il se rendit au théâtre, où une troupe espagnole affichait « El Puñal del Zorro », qui en réalité était l'œuvre de Zorrilla, « El Puñal del Godot », mais son nom avait été changé sur ordre du capitaine Aquiles Ricardo, parce que les libéraux traitaient les conservateurs de « Godos ». Ce n'est qu'au moment de présenter son billet à l'entrée qu'Aureliano José aperçut le capitaine Aquiles Ricardo, accompagné de 2 soldats armés de fusils en train de refouler le public. « Prenez garde, capitaine !» l'avertit Aureliano José. « L'homme qui mettra la main sur moi n'est pas encore né !» Le capitaine tenta de lui interdire l'entrée par la force et Aureliano José, qui était désarmé, partit en courant. Les soldats n'obtempérèrent pas à l'ordre de tirer. « C'est un Buendía !» expliqua l'un d'eux. Aveuglé par la rage, le capitaine lui arracha alors le fusil des mains, se plaça au milieu de la rue et épaula. « Bande de cons » réussit-il à hurler. « Dommage que ce ne soit pas le colonel Aureliano Buendía !» Carmelita Montiel, une vierge de 20 ans, sortait d'un bain d'eau de fleurs d'oranger et était en train d'éparpiller les feuilles de romarin sur le lit de Pilar Ternera quand retentit la détonation. Aureliano José était destiné à connaître avec elle tout le bonheur que lui avait refusé Amaranta, à en avoir 7 fils et à mourir de vieillesse dans ses bras, mais la balle de fusil qui lui entra par l'épaule et lui déchiqueta la poitrine avait été dirigée par une mauvaise interprétation des cartes. Le capitaine Aquiles Ricardo, qui était en fait celui qui devait mourir cette nuit-là, périt effectivement 4 heures avant Aureliano José. À peine la détonation eut-elle éclaté, qu'il fut abattu par 2 coups de feu simultanés, dont l'origine ne fut jamais établie et qu'un cri unanime ébranla la nuit. « Vive le Parti libéral ! Vive le colonel Aureliano Buendía !» À minuit, tandis qu'Aureliano achevait de se vider de son sang, et que Carmelita Montiel ne se trouvait dans les cartes qu'un avenir en blanc, plus de 400 hommes avaient défilé devant le théâtre et déchargé leurs revolvers sur le cadavre abandonné du capitaine Aquiles Ricardo. Il fallut toute une patrouille pour déposer sur une charrette le corps lourd de plomb qui se défaisait comme du pain mouillé. Échauffé par les exactions de l'armée régulière, le général José Raquel Moncada mobilisa toutes ses influences politiques, endossa à nouveau l'uniforme et prit en main le commandement civil et militaire de Macondo. Néanmoins, il n'espérait pas que son attitude conciliatrice parviendrait à empêcher l'inévitable de se produire. Septembre fut plein de nouvelles contradictoires. Cependant que le gouvernement annonçait qu'il gardait le contrôle du pays tout entier, les libéraux étaient secrètement informés de l'existence de soulèvements armés à l'intérieur. Le régime ne voulut pas admettre que le pays se trouvait en état de guerre. Jusqu'au jour où fut proclamé publiquement qu'une cour martiale avait jugé le colonel Aureliano Buendía par contumace et l'avait condamné à mort. Ordre était donné à la première garnison qui le prendrait d'exécuter la sentence. « Ça veut dire qu'il est de retour !» se réjouit Ursula auprès du général Moncada. Mais lui-même n'en savait rien. En réalité, le colonel Aureliano Buendía se trouvait dans la contrée depuis plus d'un mois. Précédé de rumeurs contradictoires, supposées au même moment dans les endroits les plus diamétralement opposés, le général Moncada lui-même attendit pour croire à son retour l'annonce officielle qu'il avait fait main basse sur 2 états du littoral. « Toutes mes félicitations, comme Madre, » dit-il à Ursula en lui montrant le télégramme. « Sous peu, vous l'aurez ici. » Une chose préoccupa alors Ursula pour la première fois. « Et vous ? Que ferez-vous comme Padre ? » demanda-t-elle. Le général Moncada s'était déjà posé cette question à maintes reprises. « La même chose que lui, comme Madre, » répondit-il. « Je ferai mon devoir. » Le 1er octobre à l'aube, le colonel Aureliano Buendía attaqua Macondo avec 1000 hommes armés jusqu'aux dents et la garnison reçut l'ordre de résister jusqu'au bout. À midi, tandis que le général Moncada déjeunait avec Ursula, un coup de canon des rebelles qui retentit dans tout le village pulvérisa la façade de la trésorerie municipale. « Leur armement est aussi bon que le nôtre, » soupira le général Moncada. « Mais par-dessus le marché, ils ont plus envie de se battre que nous. » À 2 heures de l'après-midi, tandis que la terre tremblait sous les coups de canon échangés de part et d'autre, il quitta Ursula avec la conviction qu'il était en train de livrer une bataille perdue d'avance. « Je prie Dieu que vous n'ayez pas ce soir Aureliano à la maison, » dit-il. « S'il en est ainsi, embrassez-le de ma part, car je n'escompte plus le revoir jamais. » Il fut capturé cette nuit-là, alors qu'il tentait de s'enfuir de Macondo, après avoir rédigé une longue lettre au colonel Aureliano Buendía, dans laquelle il lui rappelait leur commun projet d'humaniser la guerre et lui souhaitait de remporter une victoire définitive sur la corruption des militaires et les ambitions des politiciens des deux partis. Le lendemain, le colonel Aureliano Buendía déjeuna chez lui avec Ursula, où il resta cloîtré jusqu'à ce qu'un conseil de guerre révolutionnaire décida de son sort. Ce fut une réunion de famille. Mais tandis que les adversaires oubliaient la guerre pour évoquer des souvenirs du passé, Ursula éprouva la sombre impression que son fils était chez elle un intrus. Elle l'avait ressenti dès l'instant où elle l'avait vu entrer, protégé par un bruyant déploiement de force qui avait mis les chambres sans dessus-dessous jusqu'à se convaincre qu'il n'y avait nul danger. Non seulement le colonel Aureliano Buendía laissa faire, mais il donna des ordres formels d'une extrême sévérité et interdit à quiconque de s'approcher de lui à moins de 3 mètres, jusqu'à Ursula, tant que les membres de son escorte n'auraient pas fini de placer des sentinelles tout autour de la maison. Il portait un uniforme de treillis ordinaire, sans insigne d'aucune sorte, et de hautes bottes aux talons maculés de boue et de sang séché. Il avait à son ceinturon un revolver automatique dans son étui ouvert, et sa main constamment appuyée sur la crosse révélait la même tension, vigilante et résolue, qui se lisait dans son regard. Sa tête laissait voir à présent les grands angles rentrant de ses tempes dégarnies et semblait avoir doré à feu doux. Son visage fouetté et meurtri par le sel des Caraïbes avait acquis une dureté de métal. Il était préservé contre la vieillesse imminente par une vitalité qui n'était pas sans avoir quelque rapport avec la froideur des entrailles. Il était plus grand que lorsqu'il était parti, plus pâle, plus osseux, et on reconnaissait chez lui les premiers symptômes de résistance à la nostalgie. « Mon Dieu !» se dit Ursula avec inquiétude. « Maintenant, il a l'air d'un homme capable de tout. » Il l'était en effet. Le châle aztèque qu'il apporta à Amaranta, les évocations auxquelles il se livra pendant le déjeuner, les anecdotes amusantes qu'il put raconter n'étaient guère que les cendres de son humour d'autrefois. Aussitôt que fut exécuté l'ordre d'enterrer les morts dans la fosse commune, il confia au colonel Roque Carnicero la mission de hâter les jugements du conseil de guerre et eut à cœur de se réserver la tâche écrasante d'imposer les réformes radicales qui ne laisseraient pas une pierre sur l'autre dans tout l'édifice effondré du régime conservateur. « Nous devons devancer les politicards du parti, » disait-il à ses adjoints. « Quand ils rouvriront les yeux sur la réalité, ils se trouveront devant le fait accompli. » Ce fut alors qu'il décida de réviser les titres de propriété des terres en remontant de 100 ans en arrière et découvrit les escroqueries légalisées de son frère José Arcadio. Il annula tous les registres d'un trait de plume. Dans un dernier mouvement de courtoisie, il délaissa ses occupations pendant 1 heure et rendit visite à Rebecca pour l'informer de ses résolutions. Dans la pénombre de sa demeure, la veuve esselée, qui avait été jadis la confidente de ses amours réprimés et dont l'obstination lui avait sauvé la vie, n'était plus qu'un spectre du passé. Tout enveloppé de noir, jusqu'aux poignets, le cœur réduit en cendres, c'est à peine si les nouvelles de la guerre arrivaient jusqu'à elle. Le colonel Aureliano Buendía eut l'impression que la phosphorescence de ses os passait au travers de sa peau et qu'elle se mouvait dans une atmosphère de feu follet, un air croupissant, où se devinait encore une secrète odeur de poudre. Il commença par lui recommander d'atténuer la rigueur de son deuil, d'aérer sa maison, de pardonner au monde la mort de José Arcadio. Mais Rebecca était déjà à l'abri de toute vanité. Après l'avoir inutilement cherché dans la dégustation de la terre, les lettres parfumées de Pietro Crespi, le lit tempétueux de son époux, elle avait trouvé la paix dans cette demeure où les souvenirs, par la force d'une évocation implacable, finissaient par prendre forme et se promener comme des êtres humains à travers les chambres closes. Renversé dans son fauteuil à bascule en osier, regardant le colonel Aureliano Buendia comme si c'était lui qui avait l'air d'un spectre du passé, Rebecca ne se laissa même pas troubler par la nouvelle que les terres usurpées par José Arcadio seraient rendues à leur propriétaire légitime. « Tout se fera selon ta volonté, Aureliano, » dit-elle en soupirant. « J'ai toujours pensé, et voilà qui le confirme aujourd'hui, que tu n'étais qu'un renégat. » La révision des titres de propriété s'accomplit en même temps que furent rendus les jugements sommaires sous la présidence du colonel Guérinaldo Marquez, qui s'achevèrent par l'exécution de tous les officiers de l'armée régulière faits prisonniers des révolutionnaires. Le dernier conseil de guerre fut celui devant lequel comparut le général José Raquel Moncada. Ursula intervint. « C'est le meilleur administrateur que nous ayons eu à Macondo, » dit-elle au colonel Aureliano Buendia. « Je ne te dirai rien de son bon cœur, ni de l'affection qu'il nous porte, car tu les connais mieux que personne. » Le colonel Aureliano Buendia lui lança un regard réprobateur. « Je ne peux m'arroger le pouvoir de rendre la justice, » répliqua-t-il. « Si vous avez quelque chose à dire, allez le dire devant le conseil de guerre. » Non seulement Ursula n'hésita pas à le faire, mais elle emmena faire leur déposition toutes les mères d'officiers révolutionnaires résidant à Macondo. L'une après l'autre, les vieilles fondatrices du village, parmi lesquelles certaines avaient participé à la téméraire traversée de la Sierra, exaltèrent les vertus du général Moncada. La dernière à défiler fut Ursula. Sa dignité douloureuse, le poids de son nom, la véhémence persuasive de sa déclaration firent vaciller un moment le bon équilibre de la justice. Vous avez pris très au sérieux ce jeu effrayant. Et vous avez bien fait, car vous accomplissiez votre devoir, dit-elle aux membres du tribunal. Mais ne l'oubliez pas. Tant que Dieu nous prêtera vie, nous ne cesserons pas d'être des mères. Et tout révolutionnaire que vous soyez, nous avons le droit de vous baisser le pantalon et de vous flanquer une fessée au premier manque de respect. » Le jury se retira pour délibérer, tandis que résonnaient encore ces derniers mots dans l'enceinte de l'école transformée en quartier. À minuit, le général José Raquel Moncada fut condamné à mort. Le colonel Aureliano Buendia, malgré les violentes récriminations d'Ursula, se refusa à commuer la peine. Peu avant l'aube, il rendit visite au condamné dans la cellule des détenus. « Souviens-toi, compadre, que ce n'est pas moi qui te fusille, lui dit-il, c'est la révolution. » Le général Moncada ne se leva même pas du lit de camp en le voyant entrer. « Va te faire foutre, compadre, » répliqua-t-il. Jusqu'à cette minute, le colonel Aureliano Buendia ne s'était pas donné le temps depuis son retour de le regarder avec les yeux du cœur. Il fut effrayé de remarquer combien il avait vieilli. Le tremblement de ses mains, la résignation quelque peu routinière avec laquelle il attendait la mort, et il ressentit alors un profond mépris pour lui-même, qu'il prit pour un début de miséricorde. « Tu sais mieux que moi, lâcha-t-il, que tout conseil de guerre n'est qu'une farce, et qu'en vérité tu dois payer pour les crimes des autres. Car cette fois, nous allons gagner la guerre à n'importe quel prix, toi-même à ma place. N'aurais-tu pas agi de même ?» Le général Moncada se mit sur son séant pour nettoyer ses lunettes à grosse monture d'écaille avec le pan de sa chemise. « Probablement, répondit-il. Mais ce qui me préoccupe, ce n'est pas que tu me fasses fusiller, parce qu'en fin de compte, pour les gens comme nous, cette mort est la mort naturelle. » Il posa les lunettes sur le lit et ôta sa montre de sa chaîne. « Ce qui me préoccupe, poursuivit-il, c'est qu'à force de tellement haïr les militaires, de tant les combattre, de tant songer à eux, tu as fini par leur ressembler en tout point. Et il n'est pas d'idéal dans la vie qui mérite autant d'abjection. » Il retira son alliance et sa médaille de la Vierge des Remèdes et les posa à côté des lunettes et de la montre. « À ce rythme, conclut-il, non seulement tu deviendras le dictateur le plus tyrannique et le plus sanguinaire de toute notre histoire, mais tu feras fusiller ma comadre Ursula en voulant apaiser ta conscience. » Le colonel Aureliano Buendia demeura de marbre. Le général Moncada lui remit alors les lunettes, la médaille, la montre et l'alliance, et prit un autre ton. « Mais je ne t'ai pas fait venir pour t'engueuler. Je voulais te demander le service d'envoyer ces objets à ma femme. » Le colonel Aureliano Buendia les glissa dans ses poches. « Elle est toujours à Manaoré ?»« Toujours à Manaoré, » confirma le général Moncada. « Dans la même maison, derrière l'église, où tu expédias jadis cette lettre. Je le ferai très volontiers, Rossé Raquel, fit le colonel Aureliano Buendía. Lorsqu'il ressortit à l'air envahi d'une brume bleutée, son visage en fut humecté comme par le passé un autre jour à l'aube, et ce n'est qu'alors qu'il comprit pourquoi il avait décidé que la sentence serait exécutée dans la cour et non contre le mur du cimetière. Le peloton s'était rangé devant la porte et lui rendit les honneurs réservés à un chef d'État. « Vous pouvez l'emmener, » ordonna-t-il.